enlever mon pull, alors je suis inquiet pour ma coupe de cheveux. J'avais 16 ans et elle en avait 18. Et je crois devoir préciser que j'étais pas chrétien et qu'elle non plus. On était perdus, l'un et l'autre, dans une vie dont nous n'avions pas les codes. Elle venait de l'assistance sociale et moi je venais d'une famille complètement chaotique et déstructurée. Et j'étais amoureux. En fait, on était hantés par les mêmes démons, ça rapproche. On avait une relation aussi compliquée que nos vies respectives, une relation qui, en fait, me faisait beaucoup souffrir. Et je me souviens d'un jour en particulier. Un jour que, dans toute ma confusion, j'ai cru doux et romantique. Et en fait, c'était tout le contraire. Ce jour-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a dit tout doucement « T'es mon secret ». Et j'ai trouvé que c'était beau, quelle belle parole. Ça m'a touché, parce que, me disais-je, c'est beau un secret, c'est intime, c'est quelque chose de précieux qu'on veut garder pour soi. C'est ce que je pensais, et j'avais tort. Il y avait méprise. Cette parole, en fait, elle m'annonçait que l'amour ne toucherait jamais terre. Et les mois suivants, j'ai appris à mes dépens qu'il y a des secrets qu'on garde pour soi parce qu'au fond, on en a honte. On les garde dans l'ombre parce qu'on n'assume pas de les faire passer à la lumière. Alors, cette jeune fille, élue de mon cœur, gardait son secret, toujours 10 pas derrière elle, dans les soirées, en public, elle le tenait à distance. C'est quoi l'amour ? S'il y a bien quelque chose d'insaisissable en ce bas monde, quelque chose qui tend quand même à planer à 100 000, c'est bien l'amour. Et au risque de vous paraître peu romantique, redescendons sur terre. Parce que nous venons de fêter Noël. Et Noël, c'est la célébration de la parole devenue chair. Une parole d'amour qui n'est pas restée tout là-haut dans les cieux, au stade de concepts abstraits et insaisissables, mais qui s'est exposé à la vue de tous et qui est venu dans le concret de nos vies. Une parole qui s'est engagée, c'est le cas de le dire, corps et âme. La parole de Dieu s'incarne, c'est-à-dire qu'elle passe d'être une espèce de concept un peu abstrait à quelque chose de palpable, de tangible, qui vient bouleverser des vies, qui vient nous toucher, qui vient nous transformer. Et c'est très concret, en fait, c'est aussi concret que Jésus marchant sur la terre, mangeant le repas de la Pâque avec ses disciples, sentant les embruns de la mer de Galilée, jetant son regard sur les pierres du temple et sur les foules, posant ses mains sur les malades. C'est concret. Et notre parole, la nôtre, qu'en est-il de notre parole ? Est-ce que notre parole touche terre ? Ou est-ce qu'elle reste tout là-haut, à planer, très au-dessus de notre vie amoureuse, de notre vie de foi, dans de belles déclarations qui ne touchent jamais terre ? Eh bien, la parole de Dieu s'incarne et la nôtre devrait faire de même. Alors, je vous invite à venir voir ça avec moi. On va lire ensemble un texte que, je pense, on zappe la plupart du temps, où on le lit d'un œil distrait, parce que c'est un de ces textes dont on a l'impression qu'il n'y a vraiment rien à tirer. Alors que, je vous le dis, c'est sans doute l'un des textes les plus extraordinaires de la Bible. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, donc on est dans le Nouveau Testament, c'est le premier livre du Nouveau Testament, deuxième partie de la Bible, au chapitre 1, il est facile à trouver, et ce sont les 16 premiers versets. Je vais les lire. Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 16. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, avec Tamar, engendra Phares et Zara. Phares engendra Eshrom. Eshrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, avec Rahab, engendra Boaz. Et Boaz, avec Ruth, engendra Yobed. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra David. Le roi David, avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asaph. Asaph engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amos. Amos engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconia engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihoud. Abihoud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous savons qu'elle est vie. Nous te prions pour que cette parole prenne vie dans notre vie, ici-bas sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous avais prévenu, qu'est-ce qu'il y a à tirer d'un truc aussi rébarbatif qu'une liste de noms ? Alors, il y a plein de choses à tirer d'un texte comme celui-ci, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule, parce qu'elle est fondamentale. Matthieu, ici, commence son évangile par quelque chose de bien, bien, bien terrestre, une généalogie. La généalogie de Jésus. Et c'est fondamental parce que, on l'a vu dans les prédications précédentes, la Genèse nous explique que nous sommes des glébeux, des êtres créés par Dieu à partir de la terre, de la glaise. Nous sommes des êtres spirituels et on aime bien se le rappeler à nous-mêmes. C'est vrai que nous le sommes parce que Dieu nous a donné son souffle. C'est même une des différences fondamentales entre nous et les animaux. Mais nous sommes aussi des êtres fondamentalement terrestres. C'est ici, sur cette planète, sur cette terre, dans ce corps physique palpable que nous vivons. Et Matthieu, dans les 16 premiers versets de son évangile, place Jésus dans le temps et dans l'espace. Et ce faisant, il nous décrit une réalité qui a tout bouleversé dans l'histoire du monde et qui continue de bouleverser nos vies. Et c'est que Dieu s'est incarné. Il n'est pas une idée éthérée, un concept abstrait, une parole en l'air. Non, il est venu dans notre histoire, dans l'histoire du monde, au milieu de nous. Il est venu rencontrer les glébeux que nous sommes, et même mieux encore, il s'est fait lui-même glébeux. Lui qui est esprit, il s'est fait chair. Et il y a deux leçons à tirer de ça, sans doute plus d'ailleurs, mais aujourd'hui ça sera deux. Et ces deux leçons dont on ne peut pas exagérer l'importance. Et la première, elle va à contre-courant, je crois, d'une idée qui est pourtant communément admise et qui consiste à dire que notre travail de chrétien, c'est d'amener des âmes à Dieu. Vous avez certainement déjà entendu cette expression, il faut amener des âmes à Dieu. Et je pense que c'est une expression qui probablement était bien comprise quand elle était énoncée il y a peut-être 50, 100 ans ou quelques siècles. Mais la sécularisation nous a tous rendus un peu plus imperméables au langage biblique, si bien qu'il nous faut aujourd'hui le clarifier. Et voilà comment je clarifie ça. Jésus n'est pas venu pour sauver des âmes, il est venu pour sauver des personnes. C'est ça que ça veut dire. Une personne, elle ne se résume pas à son âme. On le voit très bien dans la mission que Jésus donne à ses disciples, quand il leur dit en Matthieu 10, versets 7 à 8, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Et comment est-ce qu'on voit que le royaume des cieux est proche ? Eh bien, Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et donc, ça touche toutes les dimensions de la personne, le corps, l'âme et l'esprit, parce que le péché nous affecte tout entier. Il ne concerne pas que le monde spirituel, il concerne aussi le monde physique, et c'est même là, je crois, qu'on lui voit ses manifestations les plus claires, parce qu'elles sont visibles à l'œil nu. Si on pense à la résurrection, par exemple, la résurrection qui nous est promise, ça n'est pas une résurrection de l'âme seulement, c'est une résurrection des corps. Et je crois qu'il s'agit là de la partie pour le tout. Ce que ça veut dire, c'est que c'est notre être tout entier qui va ressusciter, notre corps, mais pas seulement notre corps, bien sûr, également tout ce qu'il contient. Alors, petite question qui aura son utilité pour la suite. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu ne s'était pas incarné en Jésus-Christ ? Si tout était resté au plan spirituel ? Pour le dire autrement, qu'est-ce qui se serait passé si l'amour de Dieu, pour nous, était resté tout là-haut, à planer à 100 000 ? Si, par exemple, Dieu avait simplement déclaré à ses prophètes que, dans le monde spirituel, son Fils, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne verra jamais, est mort spirituellement pour nos péchés, et que quiconque croit en lui, sans qu'on sache bien qui c'est, a la vie éternelle. Eh bien, ce qui serait passé, c'est qu'il n'y aurait pas de salut. Jésus n'aurait pas pu prendre sur lui ce péché qui nous affecte corps, âme et esprit. Parce que le péché a affecté toute la création, il fallait que le problème du péché soit résolu ici-bas, dans le réel, sur la terre où il sévit, où il fait des ravages. Et il fallait donc que Dieu s'incarne, qu'il vienne jusqu'à nous autrement que par des concepts, des idées diffuses, un peu insaisissables. Il fallait que ce qu'il dit dans les cieux prenne chair sur la terre. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est comme ça que Jésus est entré dans l'histoire des hommes. Il est fils de Dieu, mais il est aussi fils de Joseph et de Marie. Il s'inscrit dans la lignée humaine, la parole de Dieu s'est fait chair, et ça se voit non seulement parce qu'il s'est incarné en Jésus-Christ, mais ça se voit même dans la vie même du Christ. Jésus dit « Lève-toi et marche », et le paralytique se lève et marche. Jésus dit au Lévite « Suis-moi », et le Lévite laisse là tout son ouvrage et suit Jésus. Jésus dit « Ephphatha, ouvre-toi », et le muet parle. Jésus dit « Lazare, sors de là », et le mort sort de son sépulcre. Pourquoi ? Eh bien, je crois que c'est Ésaïe qui nous en parle le mieux. Ésaïe au chapitre 55, versets 10 et 11, qui dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu prend chair. Elle vient percuter le réel, elle vient transformer le réel. Dieu dit et il se passe quelque chose. Est-ce que c'est un hasard ? Ben non, c'est pas un hasard et c'est la deuxième leçon, je crois, que nous pouvons recevoir ce matin. C'est que Dieu veut que le spirituel prenne chair. Le point culminant de cette volonté de Dieu, évidemment, c'est la naissance de Jésus. Mais cette volonté, en fait, on la retrouve déjà en prémisse, je dirais, avant, de bien des manières. Par exemple, suivez-moi au temple de Jérusalem. Au temple, on y pratiquait des sacrifices d'animaux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous figurer ce que devait être le temple. On a peut-être là aussi une idée un peu romantique de ce qu'était le temple, mais je pense que ça ne devait pas être un lieu très agréable, en fait. Tous les jours, des animaux sont mis à mort et incinérés en holocauste dans le temple. Il y a là-bas une odeur qui est mêlée d'excréments, de sang, de chair, de poils brûlés. Voilà la réalité du temple. On peut se demander si on n'aurait pas pu s'épargner tout ce cirque, quand même. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Eh bien, ce cirque, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est la représentation concrète, sur la terre, de réalités spirituelles beaucoup plus élevées. Et c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. C'est lui qui a institué le système des sacrifices dans le temple. La mort du taureau ou de l'agneau, c'est la représentation sur la terre du fait que notre péché mène à la mort. C'est la représentation du jugement de Dieu sur la vie du pécheur. C'est laid, ça pue la mort, ça entraîne des monceaux de cadavres, et c'est à ça que ressemble notre péché. C'est à ça qu'il aboutit. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Et puis, c'est aussi la représentation sur la terre d'un sacrifice qui est encore à venir et qui enlèvera de façon définitive le péché du monde. Ici, on prend un animal, on le charge symboliquement des péchés du peuple et il est sacrifié. L'agneau innocent meurt à la place du peuple coupable. Le problème, c'est qu'il faut refaire ça tous les jours. D'abord parce que le peuple pêche tous les jours. Ensuite, parce que le sacrifié est un animal alors que les pécheurs sont des hommes, donc l'identification est imparfaite. Et finalement, parce que le sacrificateur lui-même est pécheur. Et donc, avant de s'occuper des péchés du peuple, eh bien, il doit d'abord sacrifier un animal pour son propre péché. Alors, imaginez un peu la joie des premiers chrétiens, qui étaient juifs donc, quand ils ont compris que Jésus était l'agneau qui enlève le péché du monde. Il est le sacrifice parfait. Il est homme et il est sans péché. Les sacrifices, c'est fini. Jésus a définitivement payé le prix. Pour expliquer tout ça, Dieu ne s'est pas contenté de la parole. Il ne s'est pas contenté d'une explication orale qu'il aurait transmise à ses prophètes. Il a voulu que toutes ces réalités spirituelles s'incarnent dans le réel, parce que c'est ici que nous vivons. Dieu a voulu que notre spiritualité soit une spiritualité incarnée. Je vous ai parlé du temple, mais j'aurais pu parler des fêtes que Dieu a instituées. La fête des tentes, par exemple, où les Israélites devaient vivre une semaine durant dans une cabane précaire pour faire mémoire du temps où ils étaient nomades dans le désert. On ne s'en rappelait pas seulement verbalement, c'était aussi une réalité physique que Dieu a fait advenir par ce rituel, je dirais, des cabanes. J'aurais pu parler des autels que les Israélites bâtissaient pour faire mémoire d'un moment où Dieu est intervenu. Là aussi, ça aurait pu être oralement seulement, mais non, il y a quelque chose de physique qui est là. Une cabane, des autels, c'est là, c'est terrestre, ça se voit, ça se vit, ça se touche, ça s'expérimente. Alors vous me direz, oui, bon, d'accord, mais tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Très bien, alors parlons du baptême, institué par le Seigneur, qui est une représentation sur terre de la réalité spirituelle, de notre mort dans l'union à Christ et de notre résurrection avec lui à une vie nouvelle. Parlons de la Sainte Cène qu'on vient de prendre, instituée par le Seigneur, qui est une représentation sur la terre de la réalité spirituelle de notre communion avec Dieu par le sacrifice du Christ et les uns avec les autres comme corps du Christ. Et nous en venons donc à ce que ça signifie pour nous. Et ce que ça signifie pour nous, tout ça, c'est que notre vie spirituelle doit prendre chair. Notre vie spirituelle, elle ne se situe pas dans le monde des concepts et des idées. On croit parfois que la repentance, c'est un truc qui se passe exclusivement entre nous et Dieu, tout là-haut, dans les cieux, dans le lieu incroyablement spirituel du secret de notre chambre. Et l'apôtre Jacques, lui, dit tout autre chose. Il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » C'est ici que ça se passe. On croit parfois que le pardon, c'est un truc qui se passe dans notre cœur, mais que ça n'a rien à voir avec le fait de prendre son téléphone pour se réconcilier avec son frère ou sa sœur. On croit parfois que la foi, c'est un truc qui se passe entre nous et Dieu, mais que ça n'a rien à voir avec l'engagement pris par le baptême et la communion manifestée dans la Sainte Cène. On croit parfois que ce qui compte, c'est d'aimer son conjoint, mais que ce truc qui se passe à la mairie, c'est pas très important. On croit parfois que ce qui compte, c'est de faire partie de l'Église invisible, l'Église telle que Dieu la voit, mais que de faire corps avec ses frères et sœurs dans l'Église locale, ici-bas, ça c'est facultatif. Eh bien, l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ nous dit le contraire. La réalité du temple de Jérusalem nous dit le contraire. Les fêtes que Dieu a instituées, les autels bâtis par son peuple pour faire mémoire d'un moment où il est intervenu, nous disent le contraire. Les rites du baptême et de la Sainte Cène nous disent le contraire. Ils nous disent que les actes que nous posons, au premier rang desquels, dans le Nouveau Testament, nous trouvons effectivement baptême et Sainte Cène, viennent ancrer dans le réel les réalités spirituelles. et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Et si vous voulez mon avis, c'est pas pour Dieu que c'est important. C'était pas pour Dieu que c'était important que de s'incarner en Jésus-Christ. Évidemment, c'est pour nous que c'est important. Nous avons besoin de ça parce que nous sommes des glébeux. C'est ici-bas que nous vivons. Ça rend humble, hein, de dire qu'on est des glébeux. Mais c'est ici-bas que nous vivons. Et si notre vie spirituelle ne raccroche pas les wagons avec la réalité de notre vie terrestre, alors c'est facile pour l'ennemi. Il vient et il nous dit « Tu t'es pas vraiment repenti, toi. Arrête ton blabla, t'as pas pardonné. Tu t'es engagé avec le Seigneur, toi ? Mais quand ça ? Où ça ? C'est dur avec ton conjoint, hein ? Eh, tu lui as rien promis. Laisse tomber. » Mais si nous avons une date, si nous avons des photos, si nous avons des témoins, si notre nom est sur la liste des membres de l'église locale, nous avons sur quoi nous appuyer. Parce que tous ces témoignages-là nous disent et disent à l'ennemi qu'à Jésus-Christ, nous, on ne lui a pas dit « t'es mon secret ». On a confessé son nom devant les hommes et au temps opportun, il confessera le nôtre devant le Père. Les paroles s'envolent, les écrits restent, dit le proverbe. Si tu crois de tout ton cœur, mais que tu n'es pas baptisé, si tu aimes de toute ta pensée, mais que tu n'es pas marié, si tu es en communion spirituelle avec l'Église, mais que tu ne fais pas communauté, je te crois, vraiment je te crois. Je sais que ton cœur est sincère, mais je t'en prie, redescends sur terre, parce que c'est ici que Dieu t'attend. C'est dans tes actes, c'est dans le baptistère que se trouve la marque de ton engagement. Et il y a pour toi, au bout du baptême, au bout de l'engagement envers ton Seigneur, ton conjoint, ton Église, la joie de celui qui sait qui il est, où il est et à qui il appartient. Alors ne laisse pas passer cette journée sans répondre à l'appel que Dieu te fait ce matin. Je vais prier. Seigneur, toi qui es esprit, tu n'as pas rechigné à nous rejoindre ici-bas, sur la terre, à marcher avec nous, à manger avec nous. Tu n'as pas rechigné à ce que ta parole prenne chair, à ce qu'elle vienne transformer le monde, mieux que ça, sauver le monde. Et Seigneur, nous devons confesser devant toi que parfois notre spiritualité est beaucoup plus spirituelle que la tienne. Nous devons confesser que parfois nous restons très haut, là-haut, dans les cieux, avec la bouche remplie de paroles qui ne touchent jamais terre. Seigneur, nous t'en demandons pardon. Nous t'en demandons pardon parce que toi, tu as fait le chemin exactement inverse. Seigneur, je te prie de toucher nos cœurs ce matin pour que dans tous ces aspects, Seigneur, où nous parlons beaucoup, eh bien, que nos paroles puissent toucher terre par des actes qui soit conforme à ce que nous professons et confessons. Seigneur, nous reconnaissons que tu as mis en nous ton esprit et nous te rendons gloire pour ça. Nous reconnaissons aussi que nous vivons ici, sur cette terre, sur cette planète, dans cette vie faite de chair et de sang, et que c'est là que notre vie spirituelle se déroule, au moins jusqu'à ton retour, Seigneur, et même au-delà. Nous te prions, Seigneur, pour que notre foi ne plane pas à 100 000, mais qu'elle soit en contact avec la réalité, parce que c'est cette réalité-là que toi, tu viens transformer par ta parole et par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange.